8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Xavier Bertrand, le président du Conseil Régional des Hauts-de-France.
Bienvenue et bonjour Xavier Bertrand.
Bonjour.
Samedi, ce fut une journée de manifestation contre la loi Sécurité Globale. À Paris, les violences des manifestants ont été contenues grâce à une stratégie et un dispositif policier conséquent. C'est une nouvelle doctrine payante ?
Ça montre surtout que quand on veut, on peut. Et cela fait bien longtemps qu'on aurait dû mettre en place cette stratégie-là pour mettre hors d'état de nuire ceux qui ne sont que des délinquants, des anarchistes en puissance, ceux qui veulent casser du policier, casser les biens des autres. Et aujourd'hui, il faut avoir une stratégie pour que nous puissions les mettre hors d'état de nuire. Ça veut dire à la fois marcher sur deux jambes lors des manifestations, les interpeller, mais avant les manifestations, les traquer.
Les traquer.
Pour les mettre en détail. Oui, les traquer. Parce que ce ne sont pas non plus des délinquants comme les autres. Ça fait des années que nous les voyons agir. Le lynchage des policiers, ce sont les Black Blocs. Rappelez-vous cette banque à laquelle on met le feu, avec une maman à l'étage. C'est quoi des actes comme ça? Ce sont des actes criminels. Il faut donc les traiter comme tels. Et encore une fois, je dis quand on veut, on peut. Il y a la réponse du ministère de l'Intérieur. Vous avez eu des interpellations. Et d'ailleurs, les chiffres sont clairs. Le 28 novembre, 81 interpellations en France. Le 5 décembre, 95. Le 12 décembre, 164. Sonia Mabrouk, combien dorment aujourd'hui en prison parmi ces Black Blocs?
Attendez, le nombre d'interpellations, ce n'est pas un signal de fermeté déjà qui est envoyé?
Si le ministère de l'Intérieur fait son boulot, j'attends que le ministère de la Justice fasse son boulot. Et c'est aussi au Premier ministre, au Président de la République, de veiller à ce que quand les faits sont établis et tout le monde voit bien les images, il y ait des comparutions immédiates, qu'il y ait des mandats de dépôt. Vous savez, les textes sont clairs aujourd'hui. Le code pénal est clair. À l'article 431.4, il précise que quand vous participez sans arme à un attroupement, soit interdit, soit quand il y a une demande de se disperser, c'est une peine d'un an de prison. Quand vous participez au même rassemblement avec le visage dissimulé, c'est 3 ans de prison. Mmh. Et quand vous avez une arme par destination, dans vos mains ou dans votre sac à dos, c'est 5 ans.
Mais expliquez-nous, M. Bertrand.
Combien dorment en prison?
Vous estimez que la justice ne suit pas, que les instructions n'ont pas été données par le garde des Sceaux?
Il faut des instructions très claires et les moyens pour qu'il y ait des comparutions immédiates. Et vous ne m'empêcherez pas de penser que si nous ne mettons pas un terme maintenant, enfin maintenant, aux actes des Black Blocs, dans les mois qui viennent, on risque d'en avoir davantage. Et un jour ou l'autre, on aura un drame. On aura un accident. C'est ce policier l'autre jour qui a failli être lynché sous nos yeux, sous les yeux des caméras. Donc encore une fois, ça suffit maintenant.
Mais vous dites maintenant, pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas mis en place donc cette doctrine? Parce que vous dites que maintenant ça fonctionne. Pourquoi ne l'a-t-il pas mis en place auparavant?
Posez la question
au
chef du gouvernement, posez la question au préfet de police allemand. Ce qu'il faut bien voir également, c'est que la manifestation de samedi a été avec moins de manifestants. Si demain, nous retrouvons un nombre important de Black Blocs, nous n'avons pas envie de revoir ces images, de revoir ces pillages et de revoir ces lynchages. Ce ne sont pas des manifestants, les Black Blocs. Ce sont des voyous, ce sont des délinquants, des criminels en puissance. Il faut les mettre hors d'état.
Mais vous imaginez, Xavier Bertrand, un tel dispositif policier aussi conséquent chaque semaine ou presque quand il y a une manifestation? Franchement, c'est tenable?
C'est vrai que ça demande des moyens très importants et c'est aussi la raison pour laquelle j'insiste. L'autre aspect, c'est de les traquer pour les mettre hors d'état de nuire.
Dès demain, mardi 15 décembre, c'est une nouvelle étape, Xavier Bertrand, du déconfinement moins large que prévu. Alors les lieux de culture qui garderont porte close crient à l'injustice et crient leur colère. Mais compte tenu des indicateurs sanitaires, est-ce que le gouvernement avait un autre choix?
Dans une rame de TGV, vous avez 600 personnes, les unes à côté des autres, chacune avec un masque. Dans un théâtre, dans un cinéma, vous n'êtes pas les uns à côté des autres, on laisse un siège entre vous et vous avez toujours un masque. Pourquoi ce sentiment de deux poids, deux mesures? Pourquoi? Je demande à ce qu'il y ait la publication des avis du conseil scientifique. La publication des avis scientifiques qui disent que dans un TGV, il n'y a pas de problème, et que dans un cinéma, dans un théâtre, dans un musée, il y a un problème. Je demande tout simplement que le gouvernement soit astreint à un devoir de transparence et de vérité. Qu'il nous dise les choses en toute transparence. Parce que quand il n'y a pas cette transparence, on a le sentiment que c'est quoi? Du deux poids, deux mesures. Alors on va me dire, oui mais j'ai entendu, à l'entrée d'un théâtre, il y a des files d'attente. Ah bon, pour rentrer dans un train, on n'est pas les uns contre les autres. Mais je crois qu'il faut aussi aller plus loin, parce qu'on va pouvoir me dire, oui mais le train c'est important pour aller travailler, il y a une dimension économique. ce que la question économique préoccupe le plus tout le monde. Il ne faut pas oublier que le secteur de la culture est aussi un acteur économique.
Mais qui l'oublie ?
Mais c'est plus que ça.
Qui l'oublie, Monsieur Bertrand ?
Ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Je dis, c'est plus que ça. Parce que la culture, c'est aussi une dimension supplémentaire. C'est ce qui fait qu'on est français. C'est ce qui fait cette différence. Il y a une phrase formidable qui n'est pas d'un français, qui est de Churchill. Quand on lui dit au moment de la guerre qu'on pourrait réduire le budget de la culture pour mettre plus sur le budget de la guerre, il a cette phrase. Alors à quoi ça sert de faire la guerre ? Et encore une fois, il faut bien comprendre que c'est cette partie de l'âme française que moi je ne veux pas voir
disparaître. Mais on vous entend, Xavier Bertrand, c'est même l'identité de la France. Mais qu'auriez-vous fait ? Vous auriez ouvert les musées, les théâtres, les cinémas le 15 décembre, malgré l'épidémie et les indicateurs ?
Si j'avais des informations qui me disaient qu'il y avait un danger particulier, je les aurais rendues transparentes et publiques. Parce que c'est cette transparence qui crée les conditions de la confiance. Je n'ai pas envie qu'au sortir de cette crise, quand on sortira du tunnel, même si on ne voit pas aujourd'hui où est clairement cette lumière à la sortie du tunnel, j'ai pas envie d'avoir un désert culturel. Et puis c'est aussi ce qui permet aux gens de tenir la culture. C'est ça qui est important. À ceux qui ne sont que sur la rationalité économique, et c'est important, ajoutez-y cette dimension culturelle, intellectuelle.
Et à vous entendre, on a l'impression que le gouvernement prendrait ses décisions un peu à l'arbitraire, sur des décisions arbitraires.
C'est le sentiment, oui. À partir du moment où vous ne rendez pas le fondement de vos décisions transparent, les gens ont le sentiment de l'arbitraire.
C'est ce que vous demandez. Demain, le Premier ministre sera à votre place. Qu'est-ce que, en votre qualité de président de région, qu'est-ce que vous lui demandez ?
La transparence totale sur les éléments du Conseil scientifique, sur les éléments scientifiques sur lesquels il se fonde pour dire la culture, pas maintenant.
Évoquons justement, mais vous en parlez déjà, Xavier Bertrand, les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. Un accord a été exigé et même obtenu des assureurs par le ministre de l'économie Bruno Le Maire et qui concerne, je le précise, le gel des primes d'assurance des cafés, hôtels, restaurants pour 2021. Vous aviez alerté, je m'en souviens, sur le manque de coopération des assureurs. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui ?
Écoutez, il y a deux possibilités. Soit Bruno Le Maire se fait rouler dans la farine, soit c'est lui qui nous roule dans la farine. Attendez, regardez bien les choses. On nous dit, demain, les restaurateurs, par exemple, ne verront pas leurs primes augmenter. Ah bon, il faudra en plus qu'ils disent merci ? C'est-à-dire qu'ils vont avoir une garantie en moins, à l'avenir. Ils savent que la pandémie, tout ça, ça ne sera pas couvert. Leur tarif n'augmente pas. Et s'il vous plaît, circulez, il n'y a rien à voir et dites merci. Soyons sérieux. Là, le ministre de l'économie et des finances, soit il s'est fait avoir, comme un bleu, ou alors c'est quelqu'un qui essaye de nous faire prendre des vessies pour des lanternes.
C'est quand même grave comme accusation dans une telle situation.
Non, parce que je pense que l'assurance, excusez-moi, peut-être mieux placé que d'autres. J'ai été assureur agent général du côté des agents généraux, c'est-à-dire de ceux qui se battent pour défendre leurs clients, pas des dirigeants d'entreprise. Et donc, je suis en contact avec beaucoup d'assurés et j'ai donc aussi cette vision. Pour moi, l'assurance a un rôle particulier. L'assurance, c'est ce qui vous permet, encore une fois, quand vous avez un sinistre, un accident, de ne pas sombrer, de pouvoir repartir, de pouvoir vous en sortir. Et pour moi, il n'y a pas seulement le rôle économique, mais aussi un rôle sociétal. Donc l'assurance, elle doit être au rendez-vous. Alors je sais, depuis que j'ai fait ces sorties, différents assureurs, des mutualistes ou d'autres m'ont dit, mais vous savez, on a déjà agi. Je leur en demande plus. Pourquoi ?
Parce que les restaurants. Précisément, parce que certains ont l'impression d'être un bouc émissaire, Xavier Bertrand. Il ne faut pas oublier que derrière l'assurance, ce sont des dizaines de milliers d'emplois. Est-ce qu'on devrait les affaiblir en cette période ?
Alors il faut qu'ils jouent la transparence. Première des choses, pour tout ce secteur de la restauration, de l'événementiel, de la culture, première chose que je demande, c'est pas le gel des tarifs, mais tout simplement, pour les mois où il y a eu confinement, que l'on soit sûr qu'il n'y ait pas de primes à payer et donc un remboursement. La deuxième chose, beaucoup d'assureurs sont des bailleurs, sont propriétaires, et louent à qui ? Louent à des restaurateurs, au secteur de la culture, au secteur du tourisme, et je demande au ministère de l'économie et des finances, je demande au chef du gouvernement de les remettre autour d'une table et de les amener, notamment pour ces mois de confinement, à être sûr qu'ils fassent bien l'exonération de leur loyer. Et le troisième aspect, il est pour tous les Français. Tous les Français. Et pas seulement comme là, obtenu, paraît-il, le ministre de l'économie et des finances.
Mais les Français, ils changent d'assurance, ils ont le choix, monsieur Bertrand.
Leur voiture, leur habitation, en cette année 2020, les assureurs ont beaucoup moins déboursé. C'est pour eux qu'il doit y avoir un gel, pas seulement pour quelques dizaines de milliers de restaurateurs dont on a besoin absolument, mais pour l'ensemble des Français. Si les assurances n'ont pas déboursé cette année parce qu'on a moins circulé, il doit y avoir interdiction d'augmenter les tarifs. Et encore une fois, je préfère que ce soit au nom du contrat, c'est-à-dire que le ministre de l'économie et des finances obtienne ça de leur place plutôt qu'une loi et qu'une taxe qu'il risque de répercuter sur les Français.
Si ces trois conditions ne sont pas obtenues, vous diriez que c'est quoi ?
Ça veut donc dire qu'au final, la montagne a accouché d'une souris et que le ministre de l'économie et des finances nous a pris pour quoi ? Pour des gogos ?
C'est une attaque sévère depuis tout à l'heure sur les arbitrages de l'exécutif, sur l'assurance. Ce sont des attaques tous azimuts contre l'exécutif.
Il faut faire davantage aujourd'hui. Il faut faire. Je vois dans ma région comme ailleurs. Je vois des gens qui sont inquiets, des gens qui ne voient pas ces perspectives, qui vont avoir des fêtes pas les mêmes. Et même s'ils se retrouvent, la question qui se pose c'est 2021. Et je dis au gouvernement que quelles que soient les actions qui ont été menées pour ce premier confinement, il faut continuer à être aux côtés des Français et les protéger. Et protéger les petits, les moyens, tous ceux aussi. On a parlé des restes. Restaurateurs qui aujourd'hui ne veulent pas sombrer. Et je le dis, n'ayez aucun calcul cynique au sommet de l'État. Ne vous dites pas que de toute façon des entreprises disparaîtront et qu'elles renaîtront.
Vous parce pensez que qu'il y a cette logique-là au sommet
tous
de l'État
ces entrepreneurs
avec,
qui
avec
sont
les,
bien souvent,
les aides qui sont versées
qui sont bien souvent des gens qui sont quotient personnel. Ça veut dire quoi pour eux, l'avenir ? Je ne veux pas qu'il y ait cette détresse psychologique qui se transforme en drame également.
Monsieur Bertrand,
et le rôle dans une crise comme celle-ci, c'est que ceux qui dirigent doivent se mettre à la place.
Mais est-ce qu'ils ne le font pas, très sincèrement ?
Si on reprend ce que je vous propose ce matin, parce que c'est aussi mon rôle de venir proposer, je pense qu'on sera plus efficace aux côtés des Français pour les soutenir.
En tous les cas, est-ce que ce ne sont pas aussi les maires, les élus, les présidents de région qui sont plus efficaces ? Quand on voit les enquêtes, on le voit bien également, les campagnes de dépistage massif se mettent en place, notamment au Havre, où le maire Édouard Philippe appelle à se faire tous tester avant Noël. Est-ce que c'est au maire de faire une telle recommandation ?
Oui, je pense. Je pense que de toute façon, si on veut encore une fois être efficace, il faut qu'on soit tous à travailler dans le même sens. Maintenant, si vous me permettez, la question, c'est pas seulement le dépistage. La question, c'est la propagation. Comment on évite la propagation ? Si on se fait dépister et que on est positif, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là où l'État doit enfin mettre en place des solutions alternatives, de dire il y a des hôtels qui sont fermés ou qui sont très peu occupés. Si vous êtes positif, pendant quelques jours, on vous prend en charge, vous aurez la possibilité de communiquer avec votre famille. Parce que, regardez, encore une fois, le souci de se mettre à la place de chacun. Vous êtes positif, vous êtes à 4 dans un logement de 50 mètres carrés. Vous n'avez pas un positif, certainement, à la fin de la semaine. Vous pouvez en avoir jusque 4. Or, tout le monde n'a pas une maison, un appartement avec 200 mètres carrés. C'est encore une fois se mettre à la place des
Bertrand,
plus fragiles.
Je vous parlais d'Edouard Philippe, le maire, mais également l'ancien Premier ministre. Est-ce que c'est une stratégie de la carte postale, des petits cailloux blancs semés sur un chemin ?
Posez-lui cette question.
Quel est votre avis ?
Je n'en ai pas.
L'histoire politique, c'est Pompidou à Rome, est-ce que c'est le cas ?
Encore une fois, moi, vous savez, je suis porte-parole des 6 millions d'habitants de la région des Hauts-de-France, pas d'un ancien Premier ministre.
Mercredi, peut-être que là vous aurez une réponse, il y a un bureau politique des Républicains où il sera question de la question sensible justement de la primaire. Que pensez-vous de ce système de départage des candidats qui est discuté en ce moment ?
Franchement ?
Ah oui ?
J'ai rien compris.
Vous n'avez rien compris ou vous ne voulez pas comprendre ?
Non, j'ai rien compris. Peut-être pas assez malin, mais j'ai rien compris.
Maintenant, vous n'avez pas envie d'y prendre
part. Si on va jusqu'au bout du raisonnement, du bout du raisonnement, je vois l'attitude de Christian Jacob qui est de dire il y a les priorités les unes après les autres. On est force de proposition, les Républicains, mes amis Républicains, sont force de proposition, ils préparent les élections, que sont les régionales et les cantonales, et on en parlera après. Je crois que c'est du bon sens, et si on va jusqu'au bout du raisonnement, ce que je voudrais dire à mes amis des Républicains, j'ai pas de conseil à leur donner, je suis parti, ils ont raison, ceux qui refusent de créer une usine à gaz qui nous empêcherait de gagner en 2022. Parce qu'en 2022, je pense qu'il n'y a qu'un candidat de droite qui pourra redresser le pays.
Mais
j'en suis convaincu.
Mais n'est-il pas Emmanuel Macron, comme le pense Christian Estrosi ?
Le candidat de droite ?
Oui.
Mais s'il était de droite, déjà, il l'aurait dit. Et s'il était candidat de droite, ça fait déjà des années qu'il aurait mis hors d'état de nuire les Black Blocs, qu'il aurait lutté contre l'immigration clandestine, qu'il aurait mis à bas le terrorisme islamique.
Donc il n'est pas candidat de droite pour vous ?
Ah, certainement pas.
Merci Xavier Bertrand d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée et je rappelle à nos auditeurs qu'à votre place demain, et vous l'avez interpellé, ce sera le Premier ministre Jean Castex. Merci à vous.